Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Sounois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. L'hospitalisation impose de rompre avec son milieu familier. La maladie entraîne de multiples changements pour les patients, journées ponctuées par les soins et au-delà de la prise en charge médicale, eh bien, il y a un rapport au temps, au lieu, aux autres qui se retrouvent redéfinis en profondeur. Au nombre de ces habitudes bouleversées, on retrouve ces trois rendez-vous qui ponctuent chacune de nos journées depuis l'enfance, le moment des repas. Alors comment aborder cette question de l'alimentation à l'hôpital ? Doit-on d'ailleurs parler d'alimentation ou de nutrition en cas d'hospitalisation? Comment expliquer que pour beaucoup, ce plateau repas servi dans les chambres des centres hospitaliers français souffre d'une si mauvaise réputation? Alors, image négative exagérée ou réalité? Cette question n'est pas anecdotique, car bien se nourrir, c'est éviter la dénutrition, éviter un affaiblissement général qui peut menacer l'effort thérapeutique engagé. Bien manger, c'est favoriser aussi la cicatrisation, l'assimilation des traitements, améliorer le rétablissement général, se nourrir parfois par voies artificielles, par sonde, alité ou en salle de restauration, suivre un régime spécial, éviter certains aliments, prendre le temps sans donner les moyens aussi dans des hôpitaux soumis aux restrictions budgétaires et à la tension des effectifs. Au-delà de cette santé organique, il y a le bien-être, le plaisir du goût, le plaisir des sens, le bien-être général, bien manger pour mieux guérir, car on oublie souvent que la dénutrition est la première complication chez un patient hospitalisé et que ce risque augmente avec la durée de l'hospitalisation. Bien manger à l'hôpital ou quelle piste pour mieux manger à l'hôpital? Avec nous en studio, le docteur Samy Antoun, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gastro-entérologue et hépatologue, chef de service des urgences et de permanence des soins, membre du comité liaison alimentation-nutrition à Gustave Roussy, à Villejuif. Nous attendons d'une minute à l'autre le professeur Éric Fontaine, médecin nutritionniste dans l'unité de nutrition artificielle au CHU de Grenoble, également chercheur à l'INSERM à l'université Grenoble-Alpes. Et puis nous serons en ligne de Fréjus avec Nathalie Masbeuf, cadre de santé diététicienne, expert en éducation thérapeutique à l'hôpital Fréjus Saint-Raphaël dans le Var. Si vous voulez nous expliquer comment s'organisent les repas en cas d'hospitalisation chez vous, eh bien vous pouvez nous appeler au 33 84 22 75 75. Et en fin d'émission, nous retrouverons notre bulletin de santé, tour d'horizon de l'actualité sanitaire de la semaine. À la une, la situation humanitaire au Yémen, critique pour les civils de la ville portuaire de Hodeïda sur la mer Rouge. L'épidémie de virus Ebola dans l'est de la RDC, jugée par l'OMS, dangereuse et imprévisible. Et puis en Côte d'Ivoire, la grève des agents de santé des établissements publics toute cette semaine.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Samy Antoun, vous êtes membre du comité liaison alimentation-nutrition à Gustave Roussy à Villejuif, donc premier centre européen de lutte contre le cancer. Pourquoi est-ce que c'est important, hein, globalement, de bien manger quand on est à l'hôpital, donc quand on est malade et qu'on est en train de lutter contre cette maladie?
Depuis quelques années, nous avons pris conscience que la nutrition est un point important dans la lutte contre le cancer. Au départ, la nutrition faisait partie, il y a quelques années, des soins, au même titre qu'avoir un bon lit, une bonne chambre, un bon repas. Mais de plus en plus, les études ont été là et nous avons montré que le fait d'être dénutri est négatif pour la lutte contre la maladie. À cancer égal, à tumeur égal, à traitement égal, les patients dénutris vont moins se défendre, vont faire plus de mauvaise tolérance au traitement, vont avoir une survie ou une efficacité du traitement diminuée par rapport aux patients qui sont bien nourris. Et de ce fait, toute une dynamique a été mise en place pour aider le patient à bien s'alimenter.
Ce qui peut paraître étonnant dans ce que vous dites, docteur Samy Antoun, c'est que vous dites assez récemment. Pourtant, quand on est en bonne santé, on sait que c'est important de bien se nourrir pour garder cette bonne santé. Comment se fait-il que ce n'ait pas été dès l'origine cette interaction directe entre la thérapeutique et l'alimentation ?
Vous avez raison, mais l'alimentation n'avait pas réussi à prouver scientifiquement que ça servait à quelque chose. Or là, de plus en plus, nous avons des études que l'alimentation est importante. Au départ, comme je disais, ça faisait partie de du bien-être, mais là, nous avons un impact, au même titre que les traitements, nous avons un impact sur la survie des patients. En modifiant l'alimentation, en s'alimentant bien, il y a de réelles conséquences sur l'efficacité des traitements qu'on administre.
Avec des préoccupations singulières, docteur Samy Antoun, comme c'est votre cas quand on traite des patients atteints de cancer, parce qu'il y a l'effet de la maladie, par exemple, sur l'appétit, mais aussi il y a l'effet des traitements. Hein. Dans l'image de beaucoup, on a ces images de nausées, par exemple, associées à la chimiothérapie. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on est malade, quand on est traité, quand on souffre des effets secondaires des traitements pour continuer, docteur Samy Antoun, à bien manger?
Effectivement, là, c'est le cas du cancer est particulier parce que la maladie en elle-même entraîne une diminution de l'appétit, les traitements entraînent des nausées, des vomissements, les traitements entraînent une fonte musculaire, et ça, c'est important, ce rôle du muscle dans la prise en charge. Et donc, il y a vraiment toute une prise en charge qui doit être faite, et dès le départ, faut être conscient. On a mené plusieurs enquêtes, et nos collègues oncologues ont mis du temps à comprendre que c'était important. Mais de plus en plus, c'est eux maintenant qui poussent le patient à les consulter. Et donc, comment faire? C'est vraiment une succession de prises en charge, et ça commence par les diététiciennes, et c'est vrai, là je rends un hommage à nos diététiciennes qui sont au coup par coup, qui sont près du patient, et qu'il faut essayer de s'adapter aux besoins, aux envies et à la notion de plaisir que vous évoquiez.
Eh bien, un hommage qui va certainement toucher Nathalie Masbeuf. Bonjour Nathalie Masbeuf.
Bonjour.
Vous êtes
bonjour.
Donc cadre de santé, diététicienne, expert en éducation thérapeutique à l'hôpital Fréjus-Saint-Raphaël dans le Var. Justement, aujourd'hui, est-ce que vous ressentez des attentes particulières? Là, on ne va pas se mettre du côté des médecins, mais du côté des patients. Quand ils sont hospitalisés, est-ce qu'ils parlent justement de ce qu'ils vont manger pendant la durée de cette hospitalisation?
Alors oui, tout à fait, d'autant plus que c'est un indicateur de qualité, le repas. Donc, on voit bien dans les enquêtes que le repas est en général pas très bien apprécié. Et justement, grâce au comité de liaison alimentation-nutrition, j'ai un retour dans le
C'est ça qui vous empêche de parler correctement.
Oui,
je ne sais pas, on va essayer d'améliorer cette liaison technique.
Excusez-moi.
Je comprends bien une boucle. Oui. Vous continuez de l'entendre ou pas?
Oui, encore.
Oui, alors vous savez ce qu'on va faire? On va raccrocher. Et on va reprendre contact avec vous pour qu'on ait vraiment une meilleure communication, parce que ce serait dommage de gâcher cet échange. Je voulais reprendre un petit peu cette question, docteur Samy Antoun, avec vous, cette question que je viens de poser à l'instant à Nathalie Masbeuf, que l'on va retrouver dans quelques secondes. Est-ce que, même quand on est atteint d'un cancer, donc une maladie, on le sait, grave, est-ce que manger, c'est encore un moment important dans la journée, un rendez-vous important pour les personnes hospitalisées?
Je dirais que c'est le moment le plus important. Parce que le patient qui est suivi pour un cancer a sa vie rythmée par les chimiothérapies, les bilans. Il a l'impression qu'on lui a déjà programmé sa vie. Et le seul moment auquel il peut participer et aider son médecin cancérologue à lutter, c'est l'alimentation. C'est « Docteur, qu'est-ce qu'il faut que je mange? Docteur, comment je peux vous aider ?» Et c'est vraiment ce moment d'alimentation est un moment important où le patient se réapproprie sa vie c'est la maîtrise de ses traitements. Donc c'est vraiment un point important.
En préparant cette émission, j'ai lu quelque chose de très intéressant qui concernait la pédiatrie. On disait que les petits patients n'avaient pas tellement le choix de protester, hein, quand ils doivent prendre leurs médicaments. Et quand on leur apporte un plateau qui ne leur fait pas envie, eh bien c'est leur dernier lieu de résistance. Donc en gros, s'ils n'ont pas envie d'une soupe fadasse ou de carottes râpées un petit peu ternes, eh bien c'est là où ils vont dire non, donc, et qui peuvent même mettre en péril leur processus thérapeutique. C'est ça, il y a encore une capacité, on reste des humains devant son assiette, on n'est plus simplement un patient.
Tout à fait, c'est vraiment le point essentiel, c'est-à-dire que, pour ne pas faire de la philosophie, mais le feu a structuré la société et l'alimentation. Or, le patient qui est suivi pour cancer, il est seul dans sa chambre, il perd le côté social, le côté structurel. Et nous, on a essayé que les patients mangent ensemble, en salle à manger, mais c'est un autre débat, mais c'est vraiment le côté social, structurel qui est important. Et l'alimentation est vraiment centrale parce que le patient prend son devenir en main. Et c'est quelque chose d'intéressant.
Enfin, il y a une véritable réflexion. Vous disiez ces salles de restauration pour sortir le plateau de la chambre. tant que c'est possible, c'est quelque chose qui est très bien vécu par les patients. De se mettre à table, simplement.
Oui, de se mettre à table en commun, en société. On réintègre le côté social. On réintègre, on n'est plus seul avec sa maladie. Donc on voit la maladie ensemble, il y a le collègue de la chambre d'à côté qu'on voit, qu'on communique. Vraiment, c'est un lieu important, le fait de s'alimenter ensemble.
Alors, la parole à notre diététicienne, Nathalie Masbeuf, en ligne de Fréjus, que l'on retrouve. Nathalie Masbeuf, je vous interrogeais tout à l'heure sur les goûts des patients, les attentes des patients en termes d'alimentation. Comment on fait pour s'adapter en fonction des services dans lesquels on intervient?
Alors, déjà... j'ai encore le retour.
C'est terrible.
Terrible.
Alors, continuez malgré tout. Je ne sais pas si vous êtes capable de, d'échanger avec nous en dépit de ce retour.
Je vais essayer. Donc, bon, déjà, c'est un travail pluridisciplinaire. Donc, quand il y a une hospitalisation, on est un nombre d'acteurs assez importants, notamment les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, bien évidemment. Mais les diététiciennes sont un partenaire très important. Et c'est un travail d'équipe déjà, dans un premier temps. Donc à partir de là, on va prendre en charge un patient, ce qui veut dire que déjà, il faut qu'on pose un diagnostic diététique. Ce diagnostic, c'est effectivement ses habitudes alimentaires à lui, voilà, sachant que la problématique à l'hôpital, c'est quand même qu'on standardise quand même l'alimentation et que... Au jour d'aujourd'hui, il y a un véritable travail à faire dans la réflexion de changer les modes de menu, si vous voulez. Parce que dans la mesure, au jour d'aujourd'hui, on est resté encore sur l'ancienne pensée qu'il fallait décliner des régimes d'exclusion, on se rend compte qu'aujourd'hui, au contraire, qu'il va falloir plutôt adapter à l'appétit du patient, au goût du patient, et de proposer plutôt des menus dans ce sens. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a des gros mangeurs, des petits mangeurs, et que ça implique effectivement d'enrichir les préparations. Et éviter peut-être le plus possible de faire appel à l'agroalimentaire et s'orienter sur une vraie cuisine. Et c'est là le partenariat avec les cuisiniers. Voilà.
Et justement, on va avoir une illustration tout de suite avec un reportage dans les cuisines de l'hôpital Saint-Louis à PHP, c'est dans le 10e arrondissement de la capitale. Sur place, tous les jours, 2500 plateaux repas destinés aux patients, mais aussi à la crèche sur place et au personnel. Et Raphaël Constant a suivi Romain Duvernois, c'est le directeur des achats et de la logistique, Madame Aubry, Monsieur Loudac, tous deux responsables du service restauration.
Ici, nous sommes dans le hall de réception des marchandises.
Au sous-sol de l'hôpital.
Vous ne verrez pas beaucoup la lumière pendant cette visite.
Je suis.
Nous sommes ici dans le local de approvisionnement, en fait. Donc, on est dans une zone déjà réfrigérée. Là, nous avons le stockage des produits diététiques. Voilà.
Donc là, vous venez d'ouvrir une chambre froide dans laquelle on trouve des soupes, principalement des jus de fruits.
Des jus de fruits, voilà. Là, vous avez, on est dans la zone dite sale, puisqu'on y stocke nos cartons, nos légumes, donc les tomates. Là, vous avez des poires, des pommes dans le fond.
Légumes et des fruits frais.
Les légumes et fruits frais. Alors, nous utilisons des produits de quatrième gamme. Ça veut dire des produits prêts à l'emploi. La salade est lavée.
En sachet.
Voilà, en sachet. Voilà. Mais bon, c'est de la salade fraîche. C'est pareil, c'est équivalent. Donc là, vous avez essentiellement les viandes. Donc
tout est sous vide.
Alors, on utilise aussi pour certaines recettes des viandes fraîches. Donc, vous voyez, tout est sectorisé. Les chambres froides sont rangées par catégorie, par famille de produits. La fabrication des plats cuisinés se fait une journée à deux jours avant. Donc, les produits ont une date limite de consommation de trois jours ici.
Comment est-ce que vous choisissez les produits que vous allez servir aux patients de l'hôpital ?
Alors, comme nous sommes à l'assistance publique hôpitaux de Paris, nous avons d'abord une centrale d'achat qui est commune à tous les hôpitaux de la PHP. Et cette centrale d'achat sélectionne des produits en fonction de différents critères. Le coût, évidemment, mais pas seulement des critères de proximité. Ils travaillent sur des circuits courts, ils ont des offres en bio, même si on ne l'utilise pas énormément dans les hôpitaux, il y a des offres qui existent en bio. Et après, nous, ici, au niveau local, c'est l'équipe de restauration qui travaille avec une équipe de diététiciennes. On essaye de proposer aussi des menus adaptés à la pathologie des patients, bien sûr.
Et quel est le budget alloué à l'alimentation ?
Le plat principal, si ma mémoire est bonne, a un coût de revient d'à peu près 1,50 € à l'hôpital Saint-Louis.
On continue notre visite.
Voilà, vous avez un hall de cuisson donc qui ne ressemble pas à la cuisine traditionnelle. Là, on a des marmites. Donc des marmites de 150 litres dans lesquelles nous faisons les féculents, le riz, les pâtes, mais aussi les sauces.
Donc c'est ici que sont préparés tous les repas, trois fois par jour.
Tout à fait, c'est bien ici que c'est préparé. C'est-à-dire les cuire, les assaisonner, les conditionnements, les refroidir et ensuite réchauffer.
Donc, comme vous pouvez le voir, avant la chaîne, on sort ce qu'on appelle les cartes plateaux. Sur cette carte plateau, qui est individuelle, nominative, vous avez donc ce que le patient a commandé. Et là, on travaille dans un local réfrigéré à 10 degrés, maintenir le plat en dessous de 10 degrés et consommer dans les 2 heures.
Là, nous continuons à suivre le repas, quelque part, du patient. Et nous arrivons à une zone, à une gare logistique, dans laquelle est acheminé le chariot qui contient tous les plateaux de repas d'un service. On a une tortue, donc un transport automatisé qui vient récupérer le chariot et qui va l'amener directement de façon autonome dans le service.
Donc là, les filles, la 18, il faut mettre deux gruyères.
Donc 18 c'est fait, 14 c'est fait, 16 c'est fait. Alors là, nous sommes en hématologie, service achat, c'est-à-dire c'est un service de jeunes adolescents de 15 à 25 ans.
Quand les plateaux repas sortent des ascenseurs, des préparations, ils sont froids, c'est ça?
Ils arrivent froids, en liaison froide, et donc après on met en température sur le chariot, dans le service, et au bout de 55 minutes, on reprend une température à chaud, et la température doit atteindre plus de 63 degrés.
Et vous, est-ce que vous avez l'impression que les patients mangent leur plateau
repas? Par rapport à avant? Oui. Après, il reste bien sûr des patients qui ne sont pas bien et qui ont peu d'appétit. Mais on jette beaucoup moins. Quand on arrive avec l'assiette, avec les plats améliorés, on voit déjà le regard du patient qui est curieux.
Est-ce que là, vous servez dans des assiettes et non pas dans des barquettes en plastique?
Une fois que c'est chauffé, on fait la mise en assiette et là, on va servir les patients directement dans leur chambre. C'est bon?
C'est bon.
On peut y aller?
Vas-y.
Allez.
Bonjour Léa.
Bonjour.
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 Voilà, je sers ton plateau.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu as commandé pour ton déjeuner?
Un cordon bleu avec des pâtes tortillées.
Est-ce que tu as l'impression de mieux te nourrir et de moins en laisser?
Le goût, c'est comme à la maison, quoi. Enfin, déjà que c'est pas agréable d'être à l'hôpital, alors si en plus la nourriture est pas top, c'est vrai que ça joue sur le moral.
Bon, je te laisse manger pendant que c'est chaud.
Merci,
bon appétit.
Bon appétit, Léa.
Reportage de Raphaël Constant dans le cas de cet hôpital Saint-Louis, un docteur Samy Antoun, on l'a entendu, préparation sur place, c'est loin d'être le cas partout, hein, cette préparation de l'alimentation hospitalière dans le cadre de l'hôpital. Souvent, c'est livré par des compagnies extérieures.
Effectivement, mais de plus en plus, les hôpitaux mettent des normes et demandent des produits de qualité et on est ce qu'on appelle en liaison froide, mais de plus en plus, ces liaisons froides sont cadrées par nos diététiciennes, par un cahier de charges très, très restrictif et qui rentre dans les détails. Hein. Donc la liaison froide permet d'avoir un peu de fluidité, un peu de variété. Et alors que la liaison chaude, comme j'ai entendu dans le reportage, est plutôt à des contraintes plus importantes.
Nathalie Masbeuf, on vous retrouve en ligne de Fréjus. On a entendu cette jeune patiente parler de son assiette et non barquette. C'est important, hein, la présentation.
Complètement. Les couleurs aussi, le fait de concevoir les menus avec des mouleurs, des couleurs et des textures différentes. Donc effectivement, c'est un soin particulier, c'est du temps à prendre quand on est en commission de menu. Et c'est une expérience très intéressante puisque c'est quand même un menu à la carte, alors que souvent dans les hôpitaux, on travaille plutôt avec des aversions. Donc l'aversion, par définition, c'est un aspect plutôt négatif, alors que ça serait intéressant de retravailler sur l'aspect positif de l'alimentation. Pas plus parce que j'aime pas, mais ce que j'aime vraiment, mes préférences. Comme ça, le patient devient acteur. Voilà, et c'est ça, c'est une alliance. Les diététiciennes recherchent vraiment une alliance avec les patients. Notamment, bon là on voit des patients jeunes, mais aujourd'hui, par exemple, dans la région du Sud, nous avons beaucoup de personnes âgées, et avec effectivement ce côté fin de vie, ce côté c'est pas comme à la maison, je perds mes repères, qu'est-ce que je vais devenir, je voudrais rentrer, etc. Et je pense que là, le lien, l'alliance autour de l'alimentation est primordiale.
Merci beaucoup, merci Nathalie Masbeuf d'avoir été en ligne avec nous et nos excuses pour tous ces problèmes de connexion. Je rappelle que vous êtes cadre de santé diététicienne, expert en éducation thérapeutique à l'hôpital Fréjus Saint-Raphaël. Et on vous accueille avec plaisir, professeur Éric Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste dans l'unité de nutrition artificielle au CHU de Grenoble, également chercheur à l'INSERM à l'Université Grenoble-Alpes. Vous avez créé, vous présidez le collectif de lutte contre la dénutrition. On parlait à l'instant avec Nathalie Masbeuf, diététicienne, de la question précise des personnes âgées. La dénutrition, c'est une réalité aujourd'hui pour de nombreux patients hospitalisés et pas seulement pour les personnes âgées.
Oui, bien sûr. On estime qu'il y a 30 à 40% des personnes hospitalisées en France qui souffrent de dénutrition. Et quand on fait le calcul par rapport au nombre de personnes qui sont hospitalisées chaque année, on arrive au chiffre tout à fait faramineux de 2 millions de Français dénutris. Et donc, vous voyez que c'est un problème de santé publique et qui est donc très très fréquent. Dans les hôpitaux, on va dire que c'est la première des comorbidités, puisque les gens ne viennent en règle générale pas à cause de la dénutrition, ils viennent à cause d'une autre pathologie, mais cette pathologie est aggravée, voire parfois même causée par la dénutrition.
Alors, santé du corps, bien-être aussi, on voit les interactions directes entre ce bien-être psychique et le processus de rétablissement, professeur Éric Fontaine.
Oui, par rapport au bien-être psychique, oui. La question après est de savoir si l'alimentation joue un rôle là-dedans.
C'est pas forcément facile à évaluer.
C'est très dépendant de l'état d'évolution dans la maladie. Je veux dire par là que quand vous êtes en phase aiguë, que vous rentrez pour quelque chose qui est brutal, très fréquemment les gens n'ont plus faim. Ou s'ils ont encore faim, ils n'ont pas envie de manger des plats habituels. C'est-à-dire que les goûts habituels, ce qu'on a envie de manger, n'est pas forcément le cas dans cette période. Puis après, quand les choses évoluent, et on espère qu'elles évoluent dans le bon sens, il y a la phase, on va dire, de convalescence, hein, qui est un mot un peu désuet, mais qui existe toujours dans la réalité. Et cette phase de convalescence, bien sûr que le plaisir de manger et l'adaptation au goût des patients, au goût habituel des patients, doit rentrer en compte. Mais souvent, les goûts habituels des patients, à la phase aiguë d'une pathologie, sont modifiés. Et ce que vous aimez habituellement, vous n'allez pas forcément l'aimer le jour où vous avez 42 fièvres. Quoi.
Alors, on va vous retrouver, professeur Fontaine, docteur Samy Antoun, juste après ces témoignages d'auditeurs. Et ce que l'on va voir, hein, c'est que le plateau repas, il n'est pas toujours au rendez-vous dans les hôpitaux en Afrique. Première auditrice, c'est Gazelle. Elle nous appelle du Cameroun, de Yaoundé. Bonjour Gazelle.
Bonjour Caroline.
On vous écoute.
Alors moi, j'étais internée récemment dans un hôpital de Yaoundé. Mm-hmm. Je dirais qu'ici, on reçoit 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner. Mais sauf que c'est pas systématique. C'est comme un extra dans les hôtels. Il faut payer des frais supplémentaires pour avoir ces repas. Donc tous les patients ne peuvent pas y avoir accès parce que c'est cher.
Est-ce que vous aviez justement les moyens de vous les payer autour de vous, les autres patients? Comment ils faisaient justement s'ils n'avaient pas la somme nécessaire pour payer ces repas à l'hôpital?
Alors, les patients qui ne peuvent pas payer ces repas d'hôpitaux doivent compter sur leur famille, sur les amis, sur les personnes qui leur rendent visite. Mais le problème avec ces repas, c'est qu'il n'y a aucune surveillance. Voilà.
Ce qu'apportent les gens de l'extérieur, ce n'est pas surveillé, ce n'est pas forcément bon pour ce qu'ont les gens qui sont hospitalisés.
C'est exactement ça.
Merci infiniment.
À partir du moment.
Oui, on vous écoute, Gazelle, pardon.
Non, j'allais juste dire qu'à partir du moment où c'est pas l'hôpital qui sert le repas, il n'y a plus aucun contrôle.
Et sur la qualité de ce qui vous était servi, est-ce que vous en étiez satisfaite?
Oui, oui, c'était très bon, c'était chaud. Et surtout, c'était adapté à ma pathologie.
Voilà, donc ce bon point pour ce qui vous était servi à cet hôpital de Yaoundé, en tout cas, des plateaux repas payants. On va voir comment ça se passe du côté du Gabon de Libreville où l'on retrouve Sylvain. Bonjour Sylvain.
Bonjour Caroline et bonjour à toute l'équipe sur le plateau.
Merci beaucoup, on vous écoute.
Ok. En janvier 2018, j'étais hospitalisé au CHU de Libreville suite à une hémorragie digestive causée par quatre ulcères. Deux au niveau de l'œsophage et deux autres au niveau de l'estomac. Alors, suite à cela, mon médecin traitant m'a mis sur un régime alimentaire drastique. Donc, pas de plats lourds, pas de plats épicés. Mais grande fut ma surprise de constater que durant toute ma période d'hospitalisation, le seul repas qui était servi aux malades était juste un petit morceau de pain accompagné d'une boîte de conserve, en l'occurrence la macarène.
Ce sont des conserves de maquereaux. Et en fait, ça ne correspondait pas du tout au régime que vous avez imposé votre médecin dans le cadre du traitement.
Tout à fait, tout à fait. Et j'ajoute également que j'étais dans une chambre VIP qui me revenait à 15 euros au jour.
Oui, ce qui représente une sacrée somme.
Donc, voilà. Tout à fait. Je ne mangeais pas ce qu'ils apportaient. J'attendais juste la nourriture qui venait de la maison, de la part de la famille, en fait.
Et c'est votre famille qui vous apportait à manger. Dans ce cas-là, est-ce qu'il y avait un contrôle, justement, puisque vous avez expliqué que vous aviez une pathologie digestive, est-ce qu'il y avait un contrôle des médecins par rapport à ce que vous incurgitiez alors?
Non, tout à fait. Suite au conseil du médecin, en fait, je ne prenais que des bouillies, en fait, donc notamment la mousseline.
Et donc, c'était votre famille, votre service diététique?
Tout à fait, oui, exact.
Merci beaucoup Sylvain pour ce témoignage. On a eu énormément de messages aussi sur Facebook. On peut faire un petit tour d'horizon comme ça de ce qui se passe, hein, par rapport à ce que nous racontent nos auditeurs. Au Mali, c'est Issa qui nous dit « Ici, généralement, c'est la famille qui apporte le repas. Même chose de Fiston qui est à Lubumbashi en RDC. La famille apporte les repas. Burundi, pareil, la famille du malade. » Congo-Brazzaville. À Brazzaville, ce sont les parents qui doivent apporter à manger, nous dit Chancy, apporter à manger aux malades proches. Dans les années 80-90, l'hôpital fournissait les repas, mais maintenant, c'est fini. Donc, a priori, plutôt une détérioration de la situation. Guinée-Conakry, témoignage de Saïkou. En Guinée, c'est la famille qui s'occupe de ces malades en achetant aux alentours de l'hôpital. Et parfois, les médecins font face à des cas d'intoxication alimentaire. Et puis, on a aussi le témoignage d'Emir au Burkina, là qui dit qu'au CHR de Banfora, eh bien, il y avait un repas offert à midi. C'est tout. Pour le reste, c'était encore la famille qui était chargée de faire face. Et puis, on va prendre un tout dernier témoignage au téléphone, hein, avant de reprendre l'échange avec nos invités en plateau. C'est Niouma qui est en Sierra Leone, à Freetown. Bonjour Niouma.
Oui, bonjour à la fille. Et puis, bonjour à tous.
On vous écoute, Niouma.
Oui, alors ici en Sierra Leone, pendant l'épidémie d'Ebola, les médecins s'en occupaient de l'alimentation des patients.
Oui.
Mais malheureusement, après l'épidémie d'Ebola, cela a cessé. Alors, cela était dû parce que il fallait éviter la contamination et la transmission de l'épidémie d'Ebola. Mais dès après cela, malheureusement, on a repris les mauvaises habitudes. Parce qu'il y a des malades qui sont mis sous régime alimentaire. Et sachant bien que dans les banlieues, dans les provinces, il est vraiment difficile d'avoir de l'eau potable. À plus forte raison, préparer un repas sain. Alors, moi, je demanderais aux autorités hospitalières de prendre en charge la nourriture des patients. Cela pourrait beaucoup aider à améliorer leur santé. Mais demander aux parents de préparer le repas, cela rend beaucoup plus fragile leur santé.
Merci oui. beaucoup, Niouma, pour ce témoignage. On comprend complètement, si on apporte des aliments qui ne sont pas sains aux patients qui sont en fragilité à cause justement de leur maladie, eh bien, cela risque de faire encore empirer les choses. Merci beaucoup pour tous ces témoignages et on poursuit nos échanges avec nos invités. Je vais vous demander à chacun d'entre vous vos réactions. Bien sûr, on parle de ce qui se passe en France. Il y a des améliorations, on va pas non plus dire ça ne compte pas, mais par rapport à ces témoignages, situation très contrastée. Professeur Éric Fontaine, votre sentiment ?
Ben, mon sentiment, c'est qu'évidemment, moi, il s'agit de pays que je ne connais pas. Donc,
l'écart est immense,
voilà,
en tout cas.
Exactement. Hein. C'est clair que, on va dire qu'en France, ce qu'on sert est propre. Je dirais même parfois trop propre. Parce que,
aseptisé, enfin, même, souvent.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les processus de fabrication et de conservation des aliments, de ce point de vue-là, sont parfaits. Il est rarissime qu'on ait un problème d'intoxication alimentaire dans les hôpitaux. Inversement, justement, à force d'être très sécurisée, cette alimentation peut parfois perdre du goût ou alors avoir des modifications de goût au moment où on réchauffe le plat. Et donc, d'un point de vue organoleptique, on a perdu beaucoup, mais il faut reconnaître que d'un point de vue hygiénique, je pense qu'on est parfait.
Justement, ce travail, il se fait sur cette réconciliation entre l'hygiène et le social, on peut dire, et le goût et le plaisir également.
Mais pour l'instant, la réconciliation, on la voit pas trop venir. Il faut bien reconnaître.
Et il y a une dimension importante, professeur Éric Fontaine. Tout à l'heure, juste avant votre arrivée, on a passé un petit reportage. Ça se passait à l'hôpital Saint-Louis à Paris. On parlait du prix du plateau, ce fameux prix. Des fois, on entend 2 euros, 3 euros, 4 euros. Et quand c'est le luxe, on est à 6 euros pour fabriquer un repas complet. Est-ce que cette dimension budgétaire, c'est finalement le point central ou pas forcément ?
C'est un point central. C'est peut-être pas le point central, mais c'est un point central parce que, à force de mettre une contrainte économique sur les personnes qui sont payées pour acheter en grande quantité ces produits et les transformer, les contraintes de temps en temps sont telles qu'ils sont obligés d'acheter des produits de moindre qualité.
Malgré tout, il y a une dimension économique au mal manger, à la dénutrition. Oui. Ça peut être l'allongement de la durée du séjour. Donc, il faut faire la part des choses entre les deux.
Certes, mais en règle générale, on ne parle pas aux mêmes personnes et donc chacun se renvoie un peu la responsabilité. Et bien sûr que quand on explique aux directions des hôpitaux que de bien nourrir les malades peut éventuellement raccourcir la durée de séjour, ils nous croient peut-être, mais en tout cas, une fois qu'ils nous ont écoutés, on ne voit pas de changement dans les actes, dans les faits, quoi.
Ça veut dire aujourd'hui que peut-être les relations changent entre les différents acteurs de cette nutrition, entre les médecins, entre les nutritionnistes, entre les spécialistes, mais il y a aussi justement l'économat, la direction de l'hôpital. Ouais. Comment se passe tout cet échange ? Qui a le dernier mot ? Le directeur ?
En règle générale, on ne sait pas trop qui a le dernier mot. Vous savez, c'est toujours le problème quand on est très nombreux dans la responsabilité, donc dans la perte de responsabilité. La personne à qui on pourrait dire « c'est ta faute », en règle générale, se cache bien et on ne la trouve pas. Donc c'est une succession de responsabilités. Celui qui achète dit « je ne peux pas acheter » parce qu'on ne m'a pas donné plus, et celui qui donne plus ou moins dit « on m'a affecté tel budget ». Donc c'est une dilution des responsabilités qui fait que finalement c'est la faute à personne. Mais à la fin, on voit ce qu'il y a dans le plateau et objectivement le résultat n'est pas très spectaculaire.
Docteur Samy Antoun, votre sentiment justement sur cette interaction des acteurs, on va dire, du médecin jusqu'au plateau, comment ça se passe, notamment en cancérologie ?
Moi, je dirais que les choses ont un peu évolué quand même. C'est-à-dire que on est de plus en plus conscient que la nutrition, l'alimentation est importante. Donc, c'est le facteur économique, je ne le nie pas, il existe, mais vraiment, il est de moins en moins prédominant. C'est-à-dire qu'il y a là, par exemple, à Gustave Roussy, il y a le mardi et le jeudi, c'est des recettes qui ont été faites par un chef étoilé qui a donné ses recettes et pour lequel les cuisiniers font les plateaux, font les assiettes. Donc il y a une réflexion quand même qui est faite. Certes, le côté économique est important, mais comme de plus en plus les nutritionnistes ont réussi à de plus en plus à montrer que l'alimentation est importante, ce facteur économique, j'ai l'impression, hein, mais en tout cas dans les centres anticancéreux, a un impact moins important.
Autre message positif qui nous arrive à l'instant, message Facebook, Anne de Paris. Je viens de passer 3 mois, 3 semaines à la Salpêtrière, Beaujon, hein, deux grands hôpitaux parisiens, l'hôpital suisse de Paris aussi, à la suite d'une intoxication alimentaire. Et je suis très reconnaissante du travail des diététiciennes, cuisinières, aides-soignantes, hommage donc, qui m'ont permis de récupérer un tonus musculaire suffisant pour rentrer chez moi. Il y a des patients satisfaits, il y en a d'autres qui attendent plus. Il y en a d'autres qui sont insatisfaits, quoi qu'il arrive, de toute façon. Ça existe aussi. En tout cas, on peut dire que c'est un vrai enjeu politique. Il y a toute une amélioration aussi de l'image de l'hôpital qui est en jeu. Ça peut aussi, professeur Eric Fontaine, passer par l'assiette.
Bien sûr, quand on questionne, alors sur une échelle nationale, hein, quand on questionne les gens sur la qualité des soins et de tout ce qui tourne autour des soins dans les hôpitaux, en règle générale, ils sont globalement assez satisfaits par le côté médical, et les choses qui reprochent le plus fréquemment, c'est la qualité de ce qui est la restauration et l'hôtellerie au sens très très large. Et puis de temps en temps, ils reprochent aux médecins de ne pas leur expliquer suffisamment leur maladie, et surtout au moment de la sortie. Mais globalement, ce qui ressort comme quasiment une fois sur deux, en tout cas dans l'hôpital dans lequel je travaille, c'est une insatisfaction par rapport à l'offre alimentaire.
Alors justement, cette insatisfaction, est-ce qu'elle s'exprime? Est-ce qu'elle s'exprime bien? En tout cas, est-ce que la parole est recueillie? Est-ce que vous jugez, professeur Fontaine, que les patients s'emparent suffisamment de cette question?
Non, ils ne s'emparent pas suffisamment. Ils sont assez souvent en train de s'en plaindre. Moi, j'en rencontre tous les jours qui m'expliquent que ce n'est pas bon. Et je leur dis qu'il faut que, justement, ils s'emparent de la question. Parce que nous, quand on fait remonter ça au sein de nos directions et de nos tutelles, on est écouté, mais pas entendu. Alors que c'est pour ça qu'il faut que les patients ou leurs familles essayent de demander plus. Moi, je rappelle qu'en France, les patients payent 20 euros par jour, directement ou indirectement via leur mutuelle, et que ce forfait qu'on appelle hôtelier ou hospitalier, il est là justement pour l'hôtellerie au sens très large, c'est-à-dire le lit, mais aussi la restauration, et que je ne suis pas convaincu qu'ils en aient pour leur argent.
On parle de la qualité de ce que l'on mange, mais il y a aussi le problème du temps, des personnels de plus en plus occupés, sollicités, sous pression. Oui. Ce temps du repas, est-ce qu'il peut être sanctuarisé? Parce qu'on voit bien les aides-soignantes, les infirmières débordées, oui. Qui amènent les repas quand elles peuvent. Même des fois, elles oublient, on est obligé d'aller redemander. Et on ne peut pas leur reprocher parce qu'elles n'en peuvent plus. Tout ça, c'est aussi une logique financière, une logique de pression permanente.
Oui, alors là encore une fois, ça dépend des services et surtout du type de malade qu'on a. Mais dans les services de gériatrie, où il est assez fréquent que les gens aient besoin d'être aidés pour manger, lorsque l'on divise le nombre de personnes capables d'aider les patients à manger par le nombre de patients qu'il faudrait aider à manger, on est assez fréquemment autour de 5 minutes par patient. Et 5 minutes pour manger quand on est une personne âgée,
c'est impossible.
C'est impensable.
On n'a pas eu l'occasion de parler de la nutrition artificielle, c'est un autre sujet, mais oui, tout aussi intéressant. Justement, vous vouliez peut-être ajouter quelque chose? Moi, je voulais parler justement de cette sanctuarisation du temps du repas, docteur Sami Antoun. Est-ce que c'est quelque chose qui existe en cancérologie?
Un des exemples typiques de ce que vous disiez, c'est le repas du soir. C'est-à-dire, pour des raisons économiques, le repas du soir est fait très tôt, ce qui fait que les malades ont une période...
Souvent vers 18h, ce qui n'est pas l'heure du repas en France.
Et qui fait une période de jeûne, parce que le repas du petit matin est vers les 8-9 heures, le temps que l'équipe de jour soit là, ce qui fait une période de jeûne de 12 heures, ce qui est quasiment délétère.
Ce qu'on va dire finalement, c'est que le patient doit s'adapter à l'horaire du personnel de l'hôpital. Encore une fois, mais ce n'est pas pour jeter la pierre à l'hôpital, c'est de l'organisation, c'est comme ça.
On peut faire autrement, c'est-à-dire qu'il faut que l'hôpital s'adapte, et un important travail est fait dans ce sens-là, c'est-à-dire pour que le repas du soir soit le plus décalé possible, pour éviter cette période de jeûne qui est une période, on le sait en tant que nutritionniste, très négative.
D'autant plus qu'on travaille énormément sur cette question des rythmes biologiques, de la chronobiologie, et qui a un impact sur effectivement l'effet thérapeutique.
Bien sûr. Tout à fait. Non.
Alors, pour conclure, pour le mot de la fin, professeur Eric Fontaine, on a parlé de l'implication croissante des patients. Vous, en tant que médecin, vous œuvrez dans ce sens. Est-ce que les pouvoirs publics sont prêts aussi à mettre justement un effort conséquent pour que les choses changent?
Pour l'instant, mon sentiment est que non, mais on y travaille, comme on dit. C'est-à-dire que on est reçu par les tutelles et par les ministères, mais tant qu'il n'y aura pas une motivation citoyenne pour que tout un chacun demande ça, comme il y a quelques années, la douleur a été prise en charge, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans, et ça a été une revendication à la fois citoyenne, avec quelques médecins visionnaires qui osaient dire que donner de la morphine à quelqu'un n'allait pas le rendre forcément toxicomane. Il faut aujourd'hui qu'on fasse la même démarche par rapport à l'alimentation d'un malade. Moi, je dis toujours que l'alimentation, tout le monde dit c'est un soin. Moi, je dirais plus que même, c'est plus un soin. C'est de la médecine. Il faut que ce soit les médecins qui s'impliquent dans la manière de repenser l'alimentation à l'hôpital, qui n'est pas forcément une alimentation forcément agréable au sens comme on l'entend habituellement. Il est assez rare que les malades n'aient pas forcément envie de plats en sauce et de plats très odorants.
Pas forcément très gourmand.
Voilà. C'est pas forcément très gourmand. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, ça dépend beaucoup du stade de la maladie.
C'est adapté.
Voilà. Il faudrait s'adapter à ce stade. Pour l'instant, c'est pas fait. Ce n'est pas pensé comme ça. Et pour qu'on arrive à faire cette espèce de révolution intellectuelle, il faudra une pression et une pression citoyenne.
Pression par également l'action des médias. Merci à tous les deux d'avoir répondu à l'invitation de Priorité Santé. Professeur Éric Fontaine, médecin nutritionniste dans l'unité de nutrition artificielle au CHU de Grenoble, chercheur à l'INSERM, président fondateur du collectif de lutte contre la dénutrition. Et à vous, docteur Samy Antoun, gastro-entérologue et pathologue, chef de service des urgences et de permanence des soins, membre du comité liaison alimentation-nutrition à Gustave Roussy, à Villejuif.
Bulletin de santé.
Et on se retrouve pour ce tour d'horizon des faits marquants de la semaine. Un bulletin de santé que j'ai le plaisir de présenter en votre compagnie, Nathanaël Vitran, bonjour.
Un plaisir partagé, bonjour Caroline, bonjour à tous.
Et pour commencer Nathanaël, la situation humanitaire au Yémen avec une situation critique pour des patients hospitalisés à Hodeida sur la mer Rouge.
Oui, cette ville portuaire du sud du Yémen, point d'entrée, Caroline, de l'essentiel de l'aide humanitaire et le théâtre d'affrontements entre soldats yéménites et miliciens chiites. Et justement, ces combattants houthis étaient hier positionnés d'après Amnesty International sur le toit d'un hôpital, un centre de soins où se retrouvent bloqués des dizaines de patients civils pris en charge et le personnel médical. La Croix-Rouge internationale appelle à protéger les infrastructures civiles, inquiétude partagée par l'organisation Médecins sans frontières et par l'UNICEF qui alerte en particulier sur le sort des 59 enfants soignés à l'hôpital Al-Touara menacés par les combats.
L'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo et pour l'Organisation mondiale de la santé, l'épidémie reste dangereuse et imprévisible.
En visite à Kinshasa après s'être rendu dans la ville de Beni, épicentre de la flambée qui a fait 191 morts depuis le 1er août, le directeur général de l'OMS a formulé un avis teinté de prudence. Il juge que les nouvelles mesures prises pour lutter contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans cette province du Nord Kivu avaient eu un impact positif, mais estime aussi que l'épidémie reste dangereuse et imprévisible. Le 30 octobre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité une résolution sur l'épidémie d'Ebola en RDC, appelant tous les acteurs sur place à intensifier la lutte contre la maladie, et notamment dans les zones de conflit où elle se propage.
Au Bénin, en Afrique de l'Ouest, la justice a condamné mardi le député Mohamed Atao Inouo dans le cadre d'une affaire de trafic de faux médicaments.
Et peine de 6 ans de prison ferme prononcée par un tribunal de Cotonou à l'encontre de l'élu de l'opposition. Il devra aussi verser 3 milliards de francs CFA pour l'importation frauduleuse des médicaments au Bénin. Lors de la perquisition de son domicile, d'importants stocks de médicaments avaient été saisis. L'immunité parlementaire du député avait été levée en juillet dernier et son avocat a promis qu'il ferait appel du jugement. L'OMS estime que les faux médicaments tuent chaque année au moins 100 000 personnes en Afrique subsaharienne.
Alors on reste dans cette région de l'Afrique de l'Ouest avec en Côte d'Ivoire une décision attendue samedi matin pour la suite du mouvement de grève dans les hôpitaux publics du pays.
Et depuis lundi, les agents de santé des établissements publics sont en grève. Effectivement, ils réclament des augmentations d'indices, des primes, des indemnités. Ils dénoncent aussi leurs conditions de travail et le délabrement de certains établissements. À Abidjan, c'est un reportage réalisé en début de semaine, Pierre Pinto.
En ce mardi matin, dans la salle des consultations du CHU de Cocody, rares sont les patients à avoir tenté leur chance. Les deux ou trois qui sont assis sur les bancs ne savaient pas pour la grève.
Je viens, on dit c'est grève, donc je me repose, me retourne. Je suis venu pour rien.
Un peu plus d'activité aux urgences où un service minimum est assuré, comme en néonatologie, en salle d'accouchement ou en réanimation. Pour le reste, l'hôpital est à l'arrêt. Si les syndicats de médecins ne se sont pas associés au préavis déposé par 12 organisations d'agents de santé, certains d'entre eux soutiennent le mouvement, comme cet hématologue.
Je suis d'accord. On n'a qu'à cesser de déplacer les problèmes. Ces problèmes ont trop duré. Le ministre connaît le problème. Donc, ils n'ont qu'à donner une réponse claire et nette. Nous, on veut travailler. Donc, il faut que nos infirmiers, nos sages-femmes viennent. Un gynécologue sans sage-femme n'est pas gynécologue. Que cela soit réglé aujourd'hui.
Indemnité de logement, de risques sanitaires, de résidence, revalorisation de points d'indice ou de primes d'intéressement, des revendications pendantes depuis l'an dernier qui n'ont pas trouvé d'écho au gouvernement. Antoine Niamien, secrétaire général adjoint du SINICI, le syndicat national des infirmiers.
Les gouvernants nous disent qu'il n'y a pas de moyens, alors que nous voyons qu'ailleurs, il peut y avoir des moyens. Hein? Quand c'est la politique, il y a l'argent, on dégage beaucoup d'argent. Mais quand on dit qu'un secteur est prioritaire, il faut qu'on pose des actes forts pour que les gens sentent qu'effectivement c'est un secteur prioritaire.
Lundi, les organisations étaient reçues au ministère de la fonction publique. La coordination des syndicats de la santé décidera ce mercredi de la suite à donner au mouvement. Pierre Pinto, Abidjan, RFI.
Et le gouvernement a appelé la coordination gréviste à mettre fin à son mouvement et menace même les grévistes certains de révocation. Mouvement néanmoins reconduit donc jusqu'à ce soir au moins en attendant le résultat du prochain vote en Assemblée Générale. La question des perturbateurs endocriniens, Nathanaël, toujours d'actualité à Bruxelles.
Oui Caroline, vous le savez, ces substances chimiques que l'on retrouve dans les pesticides, comme dans de nombreux objets de tous les jours, des cosmétiques, des produits ménagers, mais aussi des jouets par exemple. La Commission européenne affirme s'être dotée d'une stratégie de long terme avec pour objectif de minimiser l'exposition à ces produits potentiellement toxiques, toxiques particulièrement aux périodes clés de la grossesse et de la puberté.
Avec comme point de départ, Nathanaël, la vérification de l'ensemble des législations communautaires applicables.
Et surveiller pour dresser un état des lieux et développer la recherche dans ce domaine des perturbateurs endocriniens en organisant chaque année un forum sur le sujet.
Également dans l'actualité sanitaire en Europe, la question cruciale des bactéries résistantes aux antibiotiques avec de nouveaux chiffres.
Ouais, des chiffres impressionnants. L'antibiorésistance a causé la mort de 33 000 personnes dans l'Union européenne en 2015. Des chiffres publiés dans la revue médicale de référence The Lancet. Des données compulsé à partir du réseau européen de surveillance EARS, un total de 671 689 contaminations précisément et donc plus de 33 000 décès, essentiellement des enfants de moins de 12 mois et les personnes âgées de plus de 65 ans. Et à elles seules, la Grèce et l'Italie concentrent plus du tiers de ces décès.
Dans l'ouest de la France, de nouvelles questions posées par les familles d'enfants nés avec des malformations au bras.
Et cette fois, Caroline, 4 cas répertoriés dans le Morbihan, en Bretagne. Une réunion s'est tenue dans la commune de Guidel entre des parents concernés et l'agence Santé publique France. Depuis plus de 2 ans, le registre des malformations congénitales de Rhône-Alpes a signalé aux autorités sanitaires des cas suspects concernant les départements de l'Ain et de Loire-Atlantique. Ces signalements et la demande d'enquête n'avaient pas été suivis des faits jusqu'à ce qu'il y a 2 semaines, la ministre de la Santé annonce l'ouverture d'une nouvelle enquête.
Et puis on termine avec le lancement du dossier médical partagé en France.
Carnet de santé numérique lancé mardi par la ministre Agnès Buzyn. Un nouveau dispositif, il est non obligatoire, gratuit, confidentiel et sécurisé. Et il est testé depuis 2 ans dans 9 départements.
Avec un site, hein, dmp.fr, DMP comme les initiales de dossier médical partagé, pour créer son carnet en ligne et télécharger l'application mobile.
Oui, les assurés y retrouveront les soins sur les 24 derniers mois, les antécédents médicaux, les résultats d'examen, compte rendu d'hospitalisation et encore, Caroline, les coordonnées des proches à prévenir en cas d'urgence.
Merci beaucoup Nathanaël Vitran et à très bientôt sur l'antenne de RFI. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Ah, c'est Toussaint Maquet, Ophélie Lassène et Didier Bleu. Lundi, dans Priorité Santé, journée mondiale de la pneumonie. On va donc parler de cette maladie respiratoire aiguë. Si vous voulez témoigner, si vous avez des questions, on attend bien sûr vos appels au numéro de l'émission, le 33 84 22 75 75. Également vos messages Facebook. On se retrouve lundi.
Priorité santé.
santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.